Chapitre 10, le travail des membres d'Église. Le Seigneur nous a confié un message que nous devons faire connaître au monde, un message qui doit être proclamé par la puissance du Saint-Esprit. Que nos prédicateurs se rendent bien compte de la nécessité de sauver ceux qui se perdent. Il faut que des appels directs soient adressés aux inconvertis. Pourquoi votre maître mange-t-il avec les publicains et les gens de mauvaise vie ? Demandaient les pharisiens aux disciples de Jésus. Le Seigneur répondit, « Je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. C'est le travail qu'il nous a confié. Et jamais celui-ci n'a été aussi nécessaire qu'aujourd'hui. » Dieu n'a pas chargé ses ministres de redresser les églises. Aussitôt que l'on croit avoir fait ce travail, il faut le recommencer. Les membres dont on s'occupe trop s'étiolent. Si les 9/10 du temps passé à s'occuper de ceux qui connaissent la vérité avaient été consacrés aux personnes qui l'ignorent, comme on aurait mieux contribué à l'avancement du règne de Dieu. Le Seigneur a retiré ses bénédictions parce que son peuple n'a pas travaillé en harmonie avec ses directives. Que nos prédicateurs n'affaiblissent donc pas ceux qui connaissent la vérité en leur consacrant leur temps et leur talent au lieu de s'occuper des inconvertis. Dans la plupart de nos églises urbaines, le prédicateur prêche sabbat après sabbat, et nos membres vont au culte chaque 7e jour sans avoir l'occasion de rendre leur témoignage pour les bénédictions reçues. Pendant la semaine, ils n'ont fait aucun effort pour mettre en pratique les instructions qui leur ont été données. Aussi longtemps qu'ils ne feront rien pour les communiquer à d'autres, il en résultera une grande faiblesse spirituelle. Le plus grand bien qu'on puisse faire à nos membres, c'est de leur apprendre à travailler pour le Seigneur, et à compter sur lui plutôt que sur le prédicateur. Qu'on leur enseigne donc à travailler comme le Christ a travaillé. Qu'ils se joignent à son armée de serviteurs, et œuvrent fidèlement pour lui. À certains moments, il est tout indiqué que nos prédicateurs fassent, le sabbat, dans nos églises, de courts sermons tout imprégnés de la vie et de l'amour du Christ. Mais que nos membres ne s'attendent pas à écouter une prédication chaque semaine. Souvenons-nous que nous sommes étrangers et voyageurs sur la terre, en quête d'un meilleur pays, à savoir, le céleste. Travaillons donc avec ardeur pour amener les pécheurs au Christ. Ceux qui ont fait alliance avec le Seigneur sont tenus de s'unir à lui dans la grande œuvre du salut des âmes. Que nos membres d'Église, pendant la semaine, travaillent fidèlement et relatent le sabbat leurs expériences. Le culte sera alors une vraie nourriture au temps convenable, apportant à tous une vigueur nouvelle. Lorsque le peuple de Dieu verra la nécessité de travailler, comme le Christ, au salut des âmes, les témoignages rendus au culte du sabbat auront une grande puissance. Les membres parleront avec enthousiasme des joies qu'ils auront eues en travaillant pour leurs semblables. L'organisation du travail. Que nos prédicateurs ne passent donc pas leur temps à s'occuper de ceux qui ont accepté la vérité. Le cœur brûlant d'amour pour le Christ, qu'ils s'efforcent de gagner au Sauveur de nouvelles âmes. Qu'ils jettent la semence de la vérité au-dessus de toutes les eaux. Lieu après lieu doivent être visités, église après église doivent être fondées. Qu'on organise en communauté ceux qui se décident pour la vérité. Ensuite, le prédicateur se rendra dans d'autres champs de travail également importants. Dès qu'une église est organisée, que le prédicateur mette les membres à l'œuvre. Qu'il leur apprenne à s'en acquitter avec succès. Nos pasteurs doivent passer plus de temps à enseigner qu'à prêcher. Il faut qu'ils apprennent aux membres à communiquer à d'autres les connaissances qu'ils ont reçues. S'il est indiqué que les nouveaux convertis reçoivent des conseils de ceux qui ont quelque expérience dans l'œuvre de Dieu, il faut qu'ils apprennent à ne pas mettre les prédicateurs à la place du Seigneur. Ceux-ci sont des êtres humains, des hommes remplis d'infirmités. Le Christ est le seul à qui nous devions aller pour être guidés. La parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons tous reçu de sa plénitude, et grâce sur grâce. La puissance de l'Évangile doit reposer sur les groupes nouvellement fondés, et les qualifier pour le service. Quelques-uns des nouveaux convertis seront animés de la force de Dieu, et se mettront immédiatement à l'œuvre. Ils le feront avec une diligence telle qu'ils n'auront ni le temps ni les dispositions pour décourager leurs frères par des critiques malveillantes. Leur seul désir sera de faire connaître la vérité autour d'eux. Le Seigneur m'a présenté l'œuvre qui doit être accomplie dans les villes. Les croyants de ces villes peuvent faire un bon travail missionnaire dans leur voisinage. Qu'ils s'en acquittent dans le calme et l'humilité, apportant partout avec eux l'atmosphère céleste. S'ils perdent de vue le moi, s'ils attirent toujours l'attention de ceux qui les écoutent sur le Christ, ils exerceront une puissante influence. Celui qui se donne sans réserve au service de Dieu, devient capable de travailler pour le maître avec toujours plus d'efficacité. L'attrait que le Christ a exercé sur lui s'exerce aussi sur d'autres à travers sa personne. Même s'il n'est jamais appelé à faire des conférences publiques, il n'en est pas moins un ministre de l'Évangile, et son travail prouve qu'il est né d'en haut. Ce n'est pas la volonté du Seigneur que les prédicateurs fassent la plus grande partie du travail. Il faut encourager des membres en dehors du ministère à œuvrer pour le maître selon leurs capacités. Des centaines d'hommes et de femmes actuellement oisifs pourraient exercer une activité utile en faisant connaître la vérité à leurs amis et à leurs voisins. Dieu ne fait exception de personne. Il se servira de chrétiens humbles et dévoués, même s'ils n'ont pas reçu une éducation solide. Qu'ils entrent donc à son service, et aillent de maison en maison. En s'asseyant au foyer de leurs hôtes, ils pourront, s'ils sont discrets et pieux, répondre aux besoins de ceux qui les écoutent mieux qu'un prédicateur consacré. Pourquoi les croyants ne manifestent-ils pas un intérêt plus profond, plus ardent pour ceux qui vivent loin du Christ? Pourquoi deux ou trois ne se réunissent-ils pas pour intercéder auprès de Dieu en faveur du salut d'une âme, puis d'une autre? Que dans nos églises des groupes se forment en vue du service. Plusieurs membres travailleront de concert comme pêcheurs d'hommes, et chercheront à retirer les âmes de la corruption du monde pour les amener à la pureté de l'amour du Christ. Cette question m'a été présentée par celui qui ne peut errer. Dans une grande église, formée de petits groupes afin de travailler, non seulement en faveur des membres, mais aussi pour les incroyants. Si, dans un endroit, il y a deux ou trois adventistes, qu'ils organisent un groupe missionnaire. Bien unis, animés par l'amour divin, ils s'encourageront mutuellement à marcher de l'avant, et chacun sera fortifié et soutenu par ses frères. Qu'ils manifestent le support et la patience du Christ, s'exprimant sans hâte, usant du talent de la parole pour s'édifier dans la très sainte foi. Leur travail s'inspirant de l'amour du Sauveur envers ceux qui ne sont pas des nôtres, ils s'oublieront eux-mêmes et s'efforceront de venir en aide à leurs semblables. En se dépensant et en priant au nom de Jésus, leur nombre s'accroîtra, car le Sauveur a dit, « Si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. » Dans les lieux défavorisés. Dans une humble soumission à la volonté du Seigneur, des familles doivent aller s'établir dans des endroits incultes de sa vigne. Que des hommes et des femmes consacrés se lèvent pour produire des fruits de justice dans les lieux défavorisés de la terre. Comme récompense de leurs efforts désintéressés pour répandre la semence de la vérité, ils récolteront une riche moisson d'âmes. En visitant famille après famille, en expliquant les Écritures à ceux qui gisent encore dans les ténèbres spirituelles, ils toucheront bien des cœurs. Dans les contrées où les conditions sont si difficiles et si décourageantes que beaucoup de prédicateurs refusent de s'y rendre, on enregistrera des améliorations notables si des membres possédant un esprit de sacrifice consentent à s'y établir. Ces humbles ouvriers du Seigneur accompliront un grand travail par leurs efforts patients et persévérants, et parce qu'ils ne se reposent pas sur la force de l'homme, mais sur Dieu qui leur accorde sa grâce. On ne saura jamais en ce monde tout le bien qui pourra en résulter. Missionnaires indépendants. Des missionnaires non rétribués obtiennent souvent de grands résultats. Débutant modestement, humblement, leur œuvre se développe sous la direction de l'Esprit de Dieu. Deux personnes ou même davantage peuvent s'unir pour ce travail. Il est possible que ceux qui sont à la tête de l'œuvre ne puissent les encourager par une aide financière, néanmoins qu'ils aillent de l'avant, en priant, en chantant, en enseignant et en vivant la vérité. qu'ils se mettent au colportage. Ils pourront ainsi faire connaître la vérité dans de nombreuses familles. À mesure qu'ils avanceront dans leur travail, ils feront de riches expériences. Le sentiment de leur faiblesse les gardera dans l'humilité. Le Seigneur les précédera, et ils trouveront faveur et aide auprès du riche comme auprès du pauvre. Le dénuement même de ces missionnaires dévoués est un moyen de trouver accès auprès des gens. Ils seront aidés dans leurs activités de bien des manières par ceux auxquels ils apportent la nourriture spirituelle. Ils proclameront le message que le Seigneur leur a confié, et leurs efforts seront couronnés de succès. Bien des âmes ne connaîtraient jamais le Christ si ces humbles ouvriers évangéliques ne venaient leur apporter la vérité. Dieu réclame des missionnaires pour entrer dans les champs qui blanchissent. Tarderons-nous, parce que le trésor est vide, d'encourager ceux qui sont à l'œuvre? Partez avec foi, et le Seigneur sera avec vous. Voici la promesse qui nous est faite, celui qui marche en pleurant, quand il porte la semence, revient avec allégresse, quand il porte ses gerbes. Il n'est rien qui produise le succès mieux que le succès lui-même. Qu'on se l'assure par un effort persévérant, et l'œuvre ira de l'avant. De nouveaux champs seront ouverts. Beaucoup d'âmes seront amenées à la connaissance de la vérité. L'essentiel est d'avoir foi en Dieu. Notre peuple a reçu une grande lumière, mais une bonne partie du temps de nos prédicateurs a été passée dans les églises à enseigner ce qui devrait eux-mêmes enseigner, à éclairer ce qui devrait être la lumière du monde, à arroser ceux de qui devraient sortir des fleuves d'eau vive, à enrichir ceux qui pourraient être des mines de précieuses vérités, à répéter l'invitation évangélique à ceux qui devraient être dispersés jusqu'aux extrémités du monde pour proclamer le message aux gens qui ne l'ont pas encore entendu, à nourrir ceux qui devraient se tenir au carrefour pour s'écrier « Venez, car tout est prêt ». Les hommes dont les entraves du péché ont été rompues, qui ont recherché le Seigneur avec un cœur brisé, et obtenu une réponse à leur fervente prière, ne sont jamais froids ni dépourvus de l'esprit. Leur cœur brûle d'amour pour les pécheurs. Ils mettent de côté toute ambition mondaine, toute recherche du moi. Le contact avec les réalités profondes de Dieu les fait ressembler de plus en plus à leur Sauveur. Ils exultent de ses triomphes. Ils sont débordants de sa joie. Jour après jour, ils croissent jusqu'à ce qu'ils soient arrivés à la stature d'homme et de femme en Jésus-Christ.